La Grande Mademoiselle, une œuvre d'Arvette Barine, lue par Emmanuel Voix. Première partie, l'enfance. Chapitre 4. Les garçons étaient préparés dès l'enfance à la vie ardente et pressée de leur temps. On les élevait d'après une idée arrêtée, commune aux riches et aux pauvres, aux nobles et aux roturiers. L'objet de l'éducation masculine était de faire des hommes de très bonne heure. Il n'y avait divergence entre le gentilhomme et le bourgeois que sur la meilleure manière de s'y prendre. Le premier estimait que rien ne vaut l'action pour façonner à l'action. Le second tenait les humanités pour le seul fondement d'une éducation virile et pratique. Quelle que fût la méthode adoptée, un jeune homme devait entrer dans la vie active à l'âge où nos fils commencent à peine l'interminable série de leurs examens. À 18 ans, à 16, quelquefois à 15, un Gassion, un La Rochefoucauld, un Pontis, un Horner-Talon, un Arnaud d'Andilly étaient officiers, avocats, fonctionnaires. Et les affaires en prenaient une autre physionomie qu'à notre époque, où les générations arrivent à l'action déjà vieillies et déjà fatiguées. Il n'est pas indifférent pour un peuple que sa jeunesse entre dans les carrières à un âge ou à un autre. On n'a plus la même façon de penser et de sentir à 30 ans qu'on avait à 20. On fait la guerre autrement, la politique encore plus. On a d'autres ambitions et d'autres aventures. Les moments de l'histoire où la partie agissante de la nation contient une forte proportion de très jeunes gens, en reçoivent une coloration particulière. La vie publique a un je ne sais quoi de plus fringant et de plus hardi. Il y eut sous Louis XIII des existences à faire mourir d'envie nos malheureux écoliers, qui deviennent parfois chauves avant de parvenir à quitter les bancs. Jean de Gassion, maréchal de France à 34 ans et tué à 38, 1647, était le quatrième garçon, et non le dernier, d'un président au Parlement de Navarre, qui l'avait élevé aux lettres avec soin. L'enfant profita tellement aux humanités et en la philosophie qu'il s'y trouva consommé avant l'âge de 16 ans. Il savait aussi plusieurs langues vivantes, l'allemande, la flamande, l'italienne et l'espagnole. Ainsi préparé, il partit de Pau sur le vieux bidet de son père, les poches vides et le cœur en liesse, résolu à faire fortune et ne doutant pas d'y réussir. Le vieux bidet ne put aller plus loin que 4 ou 5 lieues. Jean de Gassion continua sa route à pied, gagna la Savoie où l'on guerroyait, s'y engagea comme simple soldat et se battit si bien qu'il fut nommé cornette. La paix l'ayant ramené en France, il résolut d'offrir son épée au roi de Suède, Gustave Adolphe, qu'on disait quelque part en Allemagne à combattre les impériaux, et de lui conduire ses troupes, à lui Jean de Gassion, car il n'entendait pas se présenter seul en pauvre air devant le monarque. Il entraîna 15 ou 20 cavaliers de son régiment, s'embarqua avec eux pour la Baltique et aborda par hasard, ceci est de l'histoire, sur un rivage où Gustave Adolphe était justement à se promener. Ces choses-là n'avaient plus passé 20 ans. Jean le salua et lui exposa en latin son grand désir de le servir. Le roi, amusé, consentit à mettre ce docte gamin à l'essai. Et c'est peut-être ainsi que Gassion devint colonel à 22 ans. Sans le latin, il aurait peut-être manqué sa carrière, sa harangue cicéronienne, débitée à l'improviste dans les circonstances pittoresques qu'on a vues, avait prévenu en sa faveur un prince qui était lui-même très lettré. Après la mort du roi de Suède, Gassion rentra en France, gagna avec Condé la bataille de Rocroi et mourut au siège de lance, d'une balle dans la tête, laissant la réputation d'un brillant soldat et d'un homme de bien, d'autant de vertu que de courage. Il n'avait jamais voulu se marier. Quand on lui en parlait, il répondait qu'il ne faisait pas assez de cas de la vie pour en faire part à quelqu'un. C'était le mot d'un pessimiste, et ce n'est guère de son temps. La Rochefoucauld, qu'on n'accusa pas d'avoir été naturellement romanesque, offre un autre exemple des miracles qu'opère la jeunesse. Il ne lui serait pas arrivé d'agir une fois dans sa vie en vrai paladin, s'il ne s'était lancé dans la politique avant que d'avoir barbe au menton. Il avait fait sa première campagne à 15 ans, avec le grade de maître de camp. L'année suivante, il était à la cour, mêlé au parti et occupé à faire de l'opposition à Richelieu, sans pouvoir s'empêcher de n'être qu'un adolescent, encore très éloigné de la prudence, désabusé des maximes. La saveur toute spéciale que cette saison de la vie donne aux âmes s'était communiquée à la sienne à l'heure, marquée par la nature, l'imprégnant d'un petit parfum d'héroïsme et de poésie. Il n'oublia jamais avec quel bonheur il avait été fou pendant une semaine ou deux. Il avait alors 23 ans. La reine Anne d'Autriche était au plus fort de sa disgrâce, maltraitée et persécutée par son époux et par Richelieu. Dans cette extrémité, dit La Rochefoucauld en ses mémoires, abandonnée de tout le monde, manquant de toutes sortes de recours et n'osant se confier qu'à Mademoiselle d'Hautefort et à moi, elle me proposa de les enlever toutes deux et de les emmener à Bruxelles. Quelques difficultés et quelques périls qui me parussent dans un tel projet, je puis dire qu'il me donna plus de joie que je n'en avais jamais eu de ma vie. J'étais dans un âge où l'on aime à faire des choses extraordinaires et éclatantes, et je ne trouvais pas que rien le fût davantage que d'enlever en même temps la reine au roi son mari et au cardinal de Richelieu, qui en était jaloux, et d'ôter Mademoiselle d'Hautefort au roi qui en était amoureux. L'entreprise n'était point banale. En effet, La Rochefoucauld s'en chargea avec enthousiasme et n'y renonça que parce que la reine changea de dessein. Il avait eu, comme tout le monde, son coup de jeunesse. Il avait manqué faire sa folie. Il disait, en songeant à ce projet extravagant, « La jeunesse est une ivresse continuelle. C'est la fièvre de la raison. » La Rochefoucauld, qu'on n'accusa pas d'avoir été naturellement romanesque, offre un autre exemple des miracles qu'opère la jeunesse. Il ne lui serait pas arrivé d'agir une fois dans sa vie en vrai paladin, s'il ne s'était lancé dans la politique avant que d'avoir barbe au menton. Il avait fait sa première campagne à 15 ans, avec le grade de maître de camp. L'année suivante, il était à la cour, mêlé au parti et occupé à faire de l'opposition à Richelieu, sans pouvoir s'empêcher de n'être qu'un adolescent, encore très éloigné de la prudence, désabusé des maximes. La saveur toute spéciale que cette saison de la vie donne aux âmes s'était communiquée à la sienne à l'heure, marquée par la nature, l'imprégnant d'un petit parfum d'héroïsme et de poésie. Il n'oublia jamais avec quel bonheur il avait été fou pendant une semaine ou deux. Il avait alors 23 ans. La reine Anne d'Autriche était au plus fort de sa disgrâce, maltraitée et persécutée par son époux et par Richelieu. Dans cette extrémité, dit La Rochefoucauld en ses mémoires, abandonnée de tout le monde, manquant de toutes sortes de recours et n'osant se confier qu'à Mademoiselle d'Hautefort et à moi, elle me proposa de les enlever toutes deux et de les emmener à Bruxelles. Quelques difficultés et quelques périls qui me parussent dans un tel projet, je puis dire qu'il me donna plus de joie que je n'en avais jamais eu de ma vie. j'étais dans un âge où l'on aime à faire des choses extraordinaires et éclatantes. Et je ne trouvais pas que rien le fût davantage que d'enlever en même temps la reine au roi son mari et au cardinal de Richelieu, qui en était jaloux, et d'ôter mademoiselle d'Hautefort au roi, qui en était amoureux. L'entreprise n'était point banale. En effet, La Rochefoucauld s'en chargea avec enthousiasme et n'y renonça que parce que la reine changea de dessein. Il avait eu, comme tout le monde, son coup de jeunesse. Il avait manqué faire sa folie. Il disait, en songeant à ce projet extravagant, « La jeunesse est une ivresse continuelle. C'est la fièvre de la raison. » Louis de Pontis, l'un des familiers de Louis XIII, était un cadet de Provence dont plus d'une aventure a défrayé nos romans de cap et d'épée. Il était né en 1583. Étant âgé de 14 ans, disent ses mémoires, et ayant perdu mon père et ma mère, je sentis une inclination extraordinaire pour la guerre. Et je résolus de commencer à en apprendre le métier. Après 2 années de régiment, se sentant mûr pour les grandes actions, Pontis arrive à Paris. Pauvre comme D'Artagnan à ses débuts, monté comme lui sur une rosse et s'en va trouver Crillon qui intéresse à son sort. Le voilà au régiment des gardes, devant que d'avoir fini de grandir et rangé à l'instant parmi ceux qu'on était sûr de trouver là où il y avait une frasque à commettre ou un danger à courir. Chevaleresque et intrépide, plein d'invention et d'audace, il vécut flamberge, au vent, semant les actions héroïques, marchant dans tous les guépiers, aujourd'hui l'admiration de l'armée, demain à 2 doigts d'être fusillé ou pendu. L'un de ses plus beaux exploits fut de défendre un château fortifié, avec 3 hommes, pour le compte du futur maréchal de Créqui, qui avait une petite guerre privée avec sa sœur, Madame de Montravel. Ils se disputaient une terre proche, Juvisy, et avaient trouvé plus simple de régler leur affaire par les armes que de recourir à la chicane. Madame de Montravel était en possession du château, qu'elle faisait garder par des gens à elle. Pontis mit les gardes dehors, moitié par ruse, moitié par force, et s'installa en leur lieu et place. Madame de Montravel le fit assiéger par un prévôt, accompagné de ses archers et de tous les paysans de 4 ou 5 villages voisins. Il intimida les assaillants par des trucs de féerie. Toutes les nuits, nous faisions paraître plus de 50 mèches allumées sur des perches qui en portaient 10 ou 12, chacune espacée ainsi que des mousquetaires. De plus, on en mettait à tous les coins de la maison et on les remuait de temps en temps pour faire croire qu'on relevait les sentinelles. L'ennemi crut à une vraie garnison, demanda du renfort, du canon et se prépara à un assaut dans les règles. Quand Pontis vit que le jeu devenait sérieux, il profita de la nuit pour se laisser glisser du haut des murs le long d'une corde. Ses hommes en firent autant. Ils coururent tous ensemble aux assiégeants avec le plus de tapage possible, en criant « Tue ! Tue !» et profitèrent de leur épouvante pour filer au travers et disparaître. Pontis avait alors 22 ans. Sa carrière militaire fut un tissu d'aventures du même genre. Devenu vieux, il se retira à Port-Royal des Champs, où les autres messieurs prenaient plaisir à lui faire conter son histoire. Nicole s'est porté garant de sa véracité. Arnaud d'Andilly n'a pas une biographie aussi romanesque. L'histoire de sa jeunesse, tel qu'il la raconte dans ses mémoires, est néanmoins d'un vif intérêt. À cause des détails qu'elle nous donne sur l'éducation des fils de la haute bourgeoisie, aux environs de l'an 1600, Arnaud d'Andilly avait commencé le grec et le latin à la maison, sous la surveillance d'un père instruit. Vers la dixième année, les siens jugèrent le moment venu de mêler dans sa petite tête les réalités aux spéculations. Il était destiné aux emplois civils. Les journées furent coupées en deux, moitié pour l'étude désintéressée, moitié pour la pratique, et il fit son apprentissage de fonctionnaire sans que le thème ou la version y perdisse rien. La matinée resta consacrée aux leçons et aux devoirs. Elle était longue. On se levait à 4 heures chez ses parents. L'écolier devint bon latiniste et même bon helléniste. Il écrivait très proprement le français et avait de la lecture. Les 10 ou 12 gros volumes de ses œuvres sont là pour attester qu'il en savait beaucoup plus long que nos bacheliers, tout en ne sachant pas ou guère les mêmes choses. À 11 heures, il fermait ses dictionnaires, disait adieu à son précepteur et à la pédagogie, enfourchait un cheval et s'en allait à travers Paris chez l'un de ses oncles nommé Claude, qui s'était chargé de lui apprendre ce qui ne se trouve pas dans les livres. Nos pères veillaient avec soin sur ses premiers contacts avec la réalité. Ils tâchaient de ne pas abandonner au hasard cette initiation, qui laisse presque toujours des traces ineffaçables. L'oncle Claude de la Motte Arnaud, trésorier général de France, installait son neveu dans son cabinet et lui donnait des dossiers à étudier. Il fallait que ce petit bonhomme de 10 ans débrouillât une affaire et en rendît compte de vive voix. À 15 ans, ses classes étant terminées, un autre oncle, intendant des finances, lui fit mettre la main à la pâte dans ses bureaux. À 16, le petit Arnaud était M. Arnaud d'Andilly, chargé d'un service public. Reçu à la cour, admis bientôt à assister derrière la chaise du roi au Conseil des finances pour entendre opiner et se former aux grandes affaires. Une telle éducation n'était pas une exception. Les fils de la bonne bourgeoisie étaient tous élevés à peu près de même, avec plus ou moins de succès, suivant leurs dons naturels. Omer Talon, avocat général au Parlement de Paris et l'un des grands orateurs parlementaires du siècle, avait aussi fait de fortes études classiques. Les citations grecques et latines se pressaient sur ses lèvres en improvisant. Il avait de vastes connaissances dans la science du droit, beaucoup plus compliquée au XVIIe siècle qu'à présent. Cependant, lui non plus n'avait pas traîné sur les bancs. À 18 ans, il était reçu avocat, commençait à plaider et devenait célèbre immédiatement. Au même âge, Perrault d'Ablancourt, le traducteur des anciens, était avocat au Parlement. Après d'excellentes humanités et plusieurs années de philosophie, de droit et autres études supérieures, Antoine Lemaître, le premier solitaire de Port-Royal, qui avait commencé par être à 21 ans le plus grand avocat de Paris, avait trop bien profité de ses humanités rapides. Du temps qu'il plaidait, on lui reprochait de mettre du grec et du latin partout. La noblesse sacrifiait presque toujours l'instruction qu'elle méprisait à l'impatience de voir ses fils dans la vie active. Elle mettait ceci dans les pages dès l'âge de 13 ou 14 ans ou à l'académie pour apprendre à se servir d'un cheval, à tirer des armes, à voltiger et à danser. Les livres et les écritoires passaient aux yeux des gens de qualité pour des ustensiles roturiers, bons pour les plumitifs et les beaux esprits. Aussi écrit M. d'Avenel en parlant du règne de Louis XIII. Les gentilshommes sont-ils parfaitement ignorants, les plus illustres comme les plus modestes? Il y a entre eux, sous ce rapport, à quelques exceptions près, égalité absolue. Le connétable de Montmorency était en réputation d'homme de grand sens, bien qu'il n'eût aucune instruction, sut-il écrire son nom. Maintes grands seigneurs n'en savaient pas plus long. Et cette ignorance n'était pas honteuse, au contraire, elle était voulue, affectée, glorieuse, imitée avec empressement par la petite noblesse. « Je ne taille ma plume qu'avec mon épée », disait fièrement un gentilhomme. « Je ne m'étonne donc pas, riposta un bel esprit, que vous écriviez si mal. » Les exceptions dépendaient du caprice des pères et se rencontraient parfois où on les aurait le moins attendu. Le fameux Bassompierre, arbitre de la mode et fleur des courtisans, qui brûla en une fois plus de 6000 lettres de femmes, qui portait des habits de 14000 écus et pouvait encore les décrire 25 ans après, avait fait des études très complètes, et sur un plan qu'on ne se figurait peut-être pas aussi ancien. Il avait suivi le collège jusqu'à 16 ans et était allé se perfectionner à l'étranger, en Allemagne d'abord, où il avait travaillé la rhétorique, la logique, la physique, le droit, Hippocrate, Aristote et les cas de conscience. En Italie ensuite, où il avait fréquenté les meilleurs manèges, les meilleures salles d'armes, une école de fortification et plusieurs cours princières. À 19 ans, il était brillant cavalier, bon musicien, il avait de la culture et du monde, et il revenait débuter avec éclat à la cour de France. Le grand Condé, général en chef à 22 ans, avait fait ses classes au collège de Bourges et ses exercices à une académie de Paris, traité partout, sur l'ordre de son père, comme le premier écolier venu. Il parlait latin à 7 ans, était en rhétorique à 11, avait travaillé la philosophie, le droit, les mathématiques et l'italien, tourné joliment les vers et excellé aux exercices du corps. Louis XIII applaudissait à ses fortes études, à cette éducation démocratique, peut-être par un retour sur lui-même, et disait à tout le monde qu'il voulait faire instruire et élever Monsieur le Dauphin de la même manière. À mesure que le siècle avançait, on se convertissait à l'idée qu'un noble pouvait étudier sans déroger. Pontis, l'aventureux Pontis, qui n'avait jamais moisi nulle part, voulait qu'on prît le temps d'instruire la jeunesse. Il écrivait à quelqu'un qui lui avait demandé conseil pour l'éducation de deux jeunes seigneurs de la cour. « Je commencerai par vous avouer que je ne suis pas du sentiment de ceux qui veulent que leurs enfants, nés de science, qu'autant qu'il en faut, disent-ils, pour un gentilhomme, car, puisque la science apprend à raisonner et à bien parler en public, n'est-elle pas nécessaire à ceux qui, par la grandeur de leur naissance, de leurs emplois et de leurs charges, peuvent en avoir besoin en temps de rencontre ? Je sais que plusieurs croient aussi que la fréquentation des femmes vertueuses et habiles ouvre et polit davantage l'esprit d'un jeune cavalier que l'entretien d'un homme de lettres. Mais je ne suis pas non plus de cet avis. Pontis voulait pourtant qu'on mît grande différence entre l'enfant destiné à la robe et celui qui est voué à la profession des armes. Le premier ne doit jamais discontinuer ses études et il suffit que l'autre étudie jusqu'à 15 ou 16 ans. Après cela, on le doit mettre à l'académie. Pontis ne faisait que suivre le courant. Au moment où naquit la grande mademoiselle, l'homme de qualité n'avait plus le droit d'être ce qu'on appelait un brutal. Des mœurs nouvelles exigeaient qu'il eût du goût, à défaut de science, et qu'il se fût formé dans l'entretien d'un homme de lettres à juger des ouvrages de l'esprit. Le maréchal de Montmorency, fils du connétable qui savait à peine signer, avait toujours des gens d'esprit à ses gages, qui faisaient des vers pour lui, qui l'entretenaient d'un million de choses, et lui disaient quel jugement il fallait faire des choses qui couraient en ce temps-là. Il était de bon ton dans les grandes maisons de s'attacher au moins un auteur. En l'absence de journaux et de revues, il remplaçait nos chroniques littéraires et nos articles de critiques. Il parlait le feuilleton dramatique ou le compte-rendu du dernier roman. On fut très longtemps à faire un pas de plus et à permettre au noble d'être son propre auteur et de composer lui-même ses ouvrages de l'esprit. Celui qui succombait à la démangeaison d'écrire devait à sa naissance de s'en cacher ou de s'en excuser. Mademoiselle de Scudéry fait dire à Sapho, c'est-à-dire à elle-même dans le grand Cyrus, il n'y a rien de plus incommode que d'être bel esprit ou d'être traité comme l'étant quand on a le cœur noble et quelques naissances. Car enfin, je pose pour indubitable que dès qu'on se tire de la multitude par les lumières de son esprit et qu'on acquiert la réputation d'en avoir plus qu'un autre et d'écrire assez bien en vers ou en prose pour pouvoir faire des livres, on perd la moitié de sa noblesse. Si on en a, et l'on n'est point ce qu'est un autre, de la même maison et du même sang, qui ne se mêlera point d'écrire. On vous traite tout autrement. Vers la même époque, Talmant et Réau écrivaient de Monsieur de Montausier, l'époux de la belle Julie d'Angennes et l'un des satellites de l'hôtel de Rambouillet, « Il fait trop le métier de bel esprit pour un homme de qualité, ou du moins... il le fait trop sérieusement. Il a fait des traductions. La nuance est marquée d'un trait juste. L'homme de qualité qui écrivait devait se garder d'attacher de l'importance à ses œuvres. On s'était repris de goût pour la politesse de l'esprit, qui avait presque disparu dans le fracas des guerres civiles. Mais on conservait toutefois, dans la bonne société, l'horreur des générations précédentes pour les pédants et le pédantisme. Ignorants ou instruits, ces éducations hâtives les jetaient tous dans les différentes carrières à peine adolescents et dans la fleur de l'étourderie, mais aussi de l'enthousiasme et de la générosité. La France s'en trouva bien. Les temps auraient été trop durs sans le correctif de leurs illusions et de leur belle humeur. La tradition des siècles où la force était tout pesait encore sur les âmes. L'une de ces traditions voulait que l'homme fût dressé au sang. Dès son enfance, on citait un seigneur qui faisait tuer ses prisonniers par son petit garçon, âgé de 10 ans. Une autre dispensait d'avoir pitié des humbles, la souffrance roturière n'existait pas pour un gentilhomme. Il y avait ainsi tout un héritage d'idées inhumaines par lesquelles étaient protégés et entretenus les restes de barbarie qui traînaient dans les mœurs et qui ont failli rendre odieux ces beaux cavaliers. Ceux-ci ont été sauvés par le rayon de poésie qui s'est posé sur eux. Ils étaient bien querelleurs, mais si braves, bien sauvages quelquefois, mais si dévoués, et si gais et si amoureux, ils étaient extraordinairement vivants parce qu'ils étaient, ou qu'ils avaient été, extraordinairement jeunes, comme on ne sait plus et comme on ne peut plus l'être à présent. Ils avaient donné aux femmes de leur crânerie. Les deux sexes vivaient beaucoup de la même vie dans les hautes classes. Ils fréquentaient les mêmes lieux et y partageaient les mêmes plaisirs. On se rencontrait dans les ruelles, à la comédie, au bal, à la promenade, à la chasse, dans les voyages à cheval et même dans les camps. Une femme de qualité avait des occasions continuelles de se pénétrer de l'esprit de son temps. Il en résulta que les ambitieuses et les imaginatives voulurent avoir leur part de la vie publique et elles se la taillèrent si belle que Richelieu se plaignait de l'importance des Françaises dans l'État. On les vit se mêler de politique, intriguer et conspirer contre les hommes qu'elles poussèrent aux plus folles équipées. Quelques-unes avaient des garde-robes de déguisement et couraient les rues et les grands chemins en moines ou en gentilhommes. plusieurs manièrent l'épée, en duel et à la guerre, toutes cavalcadées. Elles étaient belles personnes, courageuses, et elles trouvaient le moyen de ne pas perdre leur grâce à ces jeux virils. Jamais femmes, au contraire, ne furent plus femmes. Les hommes les adoraient. Ils tremblaient qu'on ne les leur gâtât. Et ce fut le motif de leur résistance opiniâtre, aux idées qui commençaient à se faire jour dans la société féminine sur l'éducation des filles. Je ne peux pas trouver que les hommes eussent raison, mais je les comprends. La belle dame du temps de Louis XIII était une jolie œuvre d'art. Il se trouva que la grande mademoiselle vint en âge d'apprendre au moment même où la question de l'instruction des filles se posait dans les cercles polis. Sa gouvernante, à qui revenait le soin de diriger son éducation, se trouva pressée entre les défenseurs de l'ancienne ignorance et les premiers partisans des clartés de tout. Madame de Saint-Georges n'eut pas d'hésitation. Elle s'en tint aux vieux usages et la plus grande princesse de France sut tout juste lire et écrire. Quelques explications sont nécessaires pour justifier, dans la mesure où elle peut l'être, une mesure aussi radicale.